Europe 1,
16h-18h, l'équipe est sauvage.
Mathieu Noël.
Vous écoutez Europe 1, bienvenue dans l'équipe sauvage. 2 heures de bonne humeur informative pour vous, d'un pugilat sans merci pour eux. Trop longtemps, les journalistes de cette station se sont reposés sur leur laurier. Les pauses café s'enchaînaient. À midi, ça prenait rarement le menu express.
Bah, vous allez me mettre des paupiettes à l'ouverture et un plat de côtelette. Non, attendez. Mettez-moi d'abord un civet. Vous voyez des paupiettes. Hein, et puis, mon plat de côtelette après, quoi. Et puis, glissez-moi une petite paupiette avec, quoi.
Heureusement, le temps de la feignasserie est révolu. Chaque après-midi, nos journalistes sont désormais en compétition au service de votre savoir. Un seul sera élu chroniqueur du jour, celui ou celle qui vous aura offert le sujet le plus étonnant, sous l'œil d'un invité d'honneur dont la voix comptera triple en fin d'émission. Aujourd'hui, un grand nom de la littérature française. Il est tout simplement un de nos écrivains les plus célèbres. Eva, je vous le donne en mille.
Molière.
Presque, Daniel Pénac. Bonjour Daniel Pénac.
Bonjour.
La loi du rêveur, c'est le titre de votre nouveau roman, un roman dont vous n'auriez jamais eu l'idée si une ampoule n'avait pas explosé. Est-ce que ça c'est vrai? Parce qu'il y a beaucoup dans le roman, il y a des fausses pistes, il y a des rêves, il y a peut-être aussi des mensonges. Est-ce que le coup de l'ampoule c'est vrai? C'est vraiment quelque chose qui est arrivé dans la vie?
Oui. Ah bon, oui, pas mal d'ampoules ont sauté dans ma vie.
Oui. Je sens qu'il est parti pour nous arnaquer.
Ça fait un bruit précis.
On va évidemment parler de ce livre qui évoque vos souvenirs et traite essentiellement des rêves. Comme Federico Fellini, à qui vous rendez hommage tout au long du livre, vous avez décidé un jour de tenir un carnet de rêves. Le principe est simple, on note au matin le plus rapidement possible les souvenirs du rêve qu'on vient de faire. Parfois c'est traumatisant, comme pour ma collègue Eva Rock, qui ce matin, à l'issue d'un songe érotique, s'est réveillée en nage en s'exclamant
« Oh non, les deux frères Bogdanov hein. !»
Bonjour Eva, sacré nuit visiblement.
C'est un cauchemar. Hein.
Ah, je ne sais pas, c'est vous qui l'analysez ainsi. Tout à l'heure, vous nous direz ce qu'on regarde et ce qu'on
oui,
zappe
Mathieu,
ce soir à la télé
à
sur les écrans.
Exactement.
Un petit film, un petit documentaire, quel est le
non,
programme?
Non, vous allez voir, on va parler d'actualité et je vais vous dresser le portrait d'une avocate dont on parle beaucoup en ce moment.
Mais d'abord, Daniel Pénac, je vous présente nos deux premiers concurrents du jour. À ma gauche, il est le monsieur littérature d'Europe 1 et contrairement à ce que pourrait laisser croire son complet gris, qu'on croirait sorti d'un film des Frères Lumière sur les hussards noirs de la République, il a également une vraie dimension punk. Chaque samedi dans son émission La Voix est libre, notamment grâce à l'énergie de ses libraires, il impulse un punch incroyable au journalisme littéraire.
Chaque semaine, nous évoquons un roman culte. Salut les libraires.
Bonjour Nicolas.
Salut Nicolas.
Bonjour Nicolas Caro.
On ne touche pas à mes libraires.
Je ne touche pas, on les adore, mais un peu plus de punch dans le bonjour. Aujourd'hui Nicolas, vous rebondissez sur une expression de Daniel Pénac dans son dernier roman, le coup du rêve.
Oui.
Qu'est-ce que le coup du rêve en littérature?
Le coup du rêve, c'est que vous racontez une histoire un peu qui va très très loin dans l'extraordinaire et à la fin le héros se réveille, ce n'était qu'un rêve. Ça c'est le coup du rêve et Daniel Pénac, il aime pas trop ça.
Il n'aime pas trop ça, mais il le fait dans le livre. C'est ça qui est étonnant. À ses côtés, Daniel Pénac, on reste dans l'onirisme, mais si j'ose l'oxymore, l'onirisme réaliste. Puisqu'en effet, le garçon que je vous présente semble tout droit sorti d'un rêve. Sujet toujours passionnant et bien ficelé, musculature à faire oublier aux femmes leur mari et aux maris leur hétérosexualité. Comme jadis Achille, Anissa Mbida, notre expert innovation, n'a qu'un point faible, sa voix.
We are the champions.
Heureusement, il sait qu'il peut compter sur ses collègues pour ne pas se foutre de sa gueule lorsqu'il n'est pas là. Comme jeudi dernier.
Ah, il chante comme ça, Anissa? Ah, il chante très très mal.
Bonjour Anissa Mbida. Voyons, vous traitez quand vous n'êtes pas là.
Bonjour Mathieu, c'est terrible ça ce qui m'arrive.
Comme à chaque fois, Anissa, vous esquissez pour nous le monde de demain.
Oui, hein. J'essaye.
Et demain, Anissa, une chose est sûre, on pourra mieux se protéger dans plusieurs domaines très différents.
Oui, vous savez que l'innovation que je préfère, c'est celle qui règle nos petits problèmes de tous les jours. Et bien, je vais vous expliquer comment se protéger du démarchage téléphonique, des bonimenteurs sur Tinder ou encore de la publicité à la télévision.
Ça, j'ai hâte que vous nous expliquiez comment vous allez déjouer la publicité à la télévision. Anissa Mbida, le programme est donné. Je vous propose de donner le coup d'envoi de cette 102e édition de l'équipe est sauvage en imitant peut-être le cri de Jacques Villeret dans la soupe aux choux. Quel talent, merci.
Europe 1, l'équipe est sauvage.
C'est donc Daniel Pénac qui nous accompagne cet après-midi. Ensemble, on va évoquer votre dernier roman, La loi du rêveur. Simplement, une petite question d'actu avant de démarrer sur la littérature. Les profs ont encore manifesté vendredi. Vous avez été longtemps prof. Est-ce que vous êtes solidaire de ce mouvement? Est-ce que vous les comprenez, vous qui avez vécu le système éducatif de l'intérieur?
Les raisons précises de cette manif, je ne les connais pas. J'arrive d'Italie pour tout vous dire.
C'est vrai.
Mais... par principe, j'ai plutôt tendance à les soutenir parce qu'ils sont très mal payés.
Il faut le rappeler. Contrairement à d'autres pays d'ailleurs. Par exemple,
très mal payés, beaucoup moins payés que dans quantité d'autres pays. Mmh. Et c'est assez embêtant parce que les meilleurs, quand ils en ont vraiment marre, décident d'aller se faire mieux payer ailleurs.
Dans le
privé. C'est très mauvais pour l'éducation nationale et pour les enfants. Donc, je suis solidaire avec ces manifs.
Daniel Pénac, solidaire. Alors moi, je me suis régalé ce week-end parce que j'ai lu votre livre, La loi du rêveur. En revanche, ça m'a valu quelques hontes avec mes amis avec qui je passais un week-end parce que j'ai pas su démêler le vrai du faux dans le livre. Alors j'avais bien compris assez vite que, n'est-ce pas, il y avait une dimension de rêve et que vous nous meniez parfois en bateau. Mais comment vous avez eu l'idée de faire un livre sur le coup du rêve, où vous faites le coup du rêve, alors que vous-même, vous l'empêchiez, vous interdisiez ce procédé à vos élèves?
Je l'interdisais, oui et non. C'est-à-dire que à mes élèves en général, j'étais pensionnaire avec mes élèves et j'ai toujours tenu moi le journal de mes rêves et je leur ai appris à cueillir les leurs. Ce qui, mine de rien, était en douce, comme ça, un exercice d'écriture très intéressant. Tous les matins, et on se racontait les rêves les plus avouables, comme ça on se les racontait. Et donc, j'aurais appris à saisir, à cueillir leurs rêves matutinaux, mais je leur interdisais la solution du rêve dans les exercices, dans les rédacs. Parce qu'il se serait fait taper sur les doigts au BEPC. Sinon, il y avait un moment, il fallait que l'exercice soit un peu académique. Donc, je leur disais, c'est pas un rêve, hein, ne sortez pas par cette porte-là. Je suis planqué derrière avec un gros bâton. C'est le réel. Coltinez-vous le réel. Il y a de quoi faire avec le réel.
Il nous donne envie de nous reconnecter avec nos rêves dans son dernier roman. Daniel Pénac est notre invité cet après-midi.
Europe 1.
À suivre justement le rêve comme moteur du romanesque. Nicolas Carreau explore pour nous ces classiques de la littérature qui utilisent le rêve comme catalyseur du récit. Nombre de génies ont écrit des phrases magnifiques sur le rêve. Il y a Paul Éluard, Un rêve sans étoile est un rêve oublié. Et puis il y a Eva Rock.
Ah, mais c'est ça la vie, c'est de rêver aussi, tu vois.
L'un des deux est à la Pléiade, je vous laisse deviner lequel.
L'équipe est sauvage sur Europe 1.
16h-18h,
Mathieu Noël.
Le pouvoir des rêves, leur place dans notre vie, des thèmes qui traversent le nouveau roman de notre invité Daniel Pénac qui nous présente La loi du rêveur, paru chez Gallimard. Une chose est sûre, le rêve de l'un peut être le cauchemar de l'autre. Je me souviens très bien de la fois où le réalisateur Pef nous avait parlé de sa première rencontre avec Gérard Depardieu.
La première fois que j'ai rencontré Gérard Depardieu, quand je suis allé chez lui, vous savez, c'était comme un rêve. Il m'accueille en slip.
Alors personnellement, pas sûr que je l'aurais vécu. Je l'aurais peut-être noté dans la colonne cauchemar plutôt. Nicolas Carreau, vous êtes notre premier concurrent du jour et vous allez ouvrir le bal avec un sujet taillé sur mesure pour séduire notre invité. Vous nous parlez de ces écrivains qui nous font, de temps à autre, le coup du rêve.
Mais oui, c'est ce que nous expliquait Daniel Pénac tout à l'heure. Il n'aimait pas quand ses élèves, à la fin d'une rédaction, faisaient le coup du rêve, c'est-à-dire que le héros se réveille et tout est résolu puisque ce n'était qu'un rêve. Donc tout le reste, tout ce qui précède le réveil pouvait être absolument n'importe quoi et c'est très facile. Et effectivement, dans ces cas-là, c'est un peu dommage parce que parfois, il y a des choses qu'on aimerait expliquer, une enquête qui ne se termine pas parce que le héros se réveille et c'était qu'un rêve et donc il n'y a rien à résoudre.
Ah oui,
c'est
ça, dans un facile. Thriller, le coup du rêve, oui, ça ne le fait pas.
Mais d'abord, moi, je trouve que ça peut être très, très efficace. Je veux dire, au moins les trois premières fois. Chacun, on a eu comme ça une fin de roman en se disant « Oh là là, en fait, il rêvait, c'est génial !» Alice au Pays des Merveilles, par exemple, oui. Bon, bah, à la fin, elle rêve. Évidemment, c'est tellement du non-sens, c'est tellement extraordinaire ce qui lui arrive, le lapin, la reine de cœur,
etc. Pensez à nos auteurs qui n'ont jamais lu Alice au Pays des Merveilles.
Oh, bah, on peut spoiler Alice au Pays des Merveilles, quand même, ça suffit. Non, mais là, en plus, c'est un peu bizarre parce que ça sert même à rien en fait, là, parce qu'il n'y a rien à résoudre. C'est tellement du non-sens britannique qu'on se dit même pourquoi elle rêvait au fond. On y aurait cru tout simplement, quoi, comme un conte pour enfants. C'est pareil pour Le Magicien d'Oz. Avec Dorothy, donc, qui est dans le Kansas, et sa maison, après, pendant une tornade, s'envole au pays d'Oz. Il y a la route de briques jaunes, elle rencontre l'épouvantail, l'homme de fer, le lion, etc. Et puis, ils vont à la rencontre du magicien d'Oz et tout ça. Et bon, là, on sait aussi qu'elle va se réveiller, parce qu'on la voit s'endormir. Enfin, c'est évident. C'est pas grave, c'est ce que je veux dire. C'est que parfois, le coup du rêve, c'est pas grave.
Vous pardonnez à l'auteur. Ça, voilà, Nicolas Carreau d'Europe 1 pardonne à l'auteur.
Exactement.
C'est important.
Parce qu'il y a des variantes. Aussi, il y a des écrivains qui décrivent leurs rêves et c'est d'entrée. Par exemple, il y a beaucoup de nouvelles, de recueils de nouvelles de Stephen King qui s'appellent Rêves. Il y a Rêves et cauchemars, il y a Le bazar des mauvais rêves. Daniel Pénac aussi décrit ses rêves. Baudelaire aussi, Rêves sous opium. Il y a beaucoup, beaucoup de textes de Baudelaire qui décrivent ses rêves. Et parfois, alors c'est là où ça devient vraiment très intéressant, le coup du rêve selon moi, c'est quand il y a le rêve dans le rêve, dans le rêve, dans le rêve, dans le rêve.
Ça, c'est Inception.
C'est Inception et d'autres qu'on ne peut pas citer. sinon on va effectivement spoiler. Il y a des grands classiques, le début du Grand Maulne. En fond, on ne sait pas si on est dans le rêve ou la réalité, mais c'est encore un peu plus ambigu parce que ça a pas tellement, c'est pas assez extraordinaire pour qu'on soit sûr et certain que ce soit du rêve. Et à la fois, c'est quand même un peu bizarre.
On ne sait pas, non, mais je me souviens plus le Grand Maulne.
Au début du Grand Maulne, on ne sait pas du tout. Il se passe des trucs très mystérieux, des situations très étranges. Il y a aussi l'histoire sans fin qui est encore différente parce que là, le monde imaginaire est créé par les rêves des hommes. Donc on sait d'entrée que c'est un rêve, mais ce n'est pas le héros qui rêve, c'est-à-dire qu'il va dans le monde rêvé par les hommes. Bon, c'est comme là où on se rend compte de la richesse de la littérature quand même et des inventions humaines pour créer des mondes comme ça. Moi, je trouve ça merveilleux. Et juste pour terminer, quand même, on peut se dire que de toute façon, tout roman est un rêve d'une certaine manière puisque c'est de la fiction, donc c'est inventé, donc c'est forcément un rêve.
Tout à fait. Voilà. C'était une très belle chronique, Nicolas Carreau, et j'ai bu vos paroles de bout en bout.
Ça sera
peut-être que je vous donnerai mon point. Je vais écouter les autres d'abord, quand même. On va quand même écouter vos collègues. Daniel Pénac, vous avez ce carnet de rêves depuis quand? Vous disiez tout à l'heure depuis toujours, mais vous ne l'avez pas depuis toujours. Quand est-ce que vous avez commencé à noter vos rêves?
Oh, si, dans le début d'adolescence.
Ah, vraiment? Oui.
Oui.
Là, quand vous êtes capable de me dire ce que vous avez rêvé, je passe week-end, par exemple, vous l'avez noté?
Pas ce week-end, mais je peux vous raconter mon dernier rêve. On raconte celui qui marque, bien sûr.
Oui, bien sûr.
Je venais de lire un très bon roman d'un écrivain japonais qui écrit en français, qui s'appelle Akira Mizubayashi. Et le roman s'intitule « Âme brisée ». C'est l'histoire d'un violon que des soldats japonais ont brisé en arrêtant des gens qui faisaient de la musique. Et un gosse récupère ce violon et passe sa vie à la réparer. Et c'est absolument magnifique. C'est une métaphore bouleversante. C'est un très très beau roman qui m'a beaucoup frappé. Et deux ou trois nuits plus tard, voilà Tipa que le petit violon me parle.
Ah, il
me parle à moi. J'étais donc dans le souvenir. Et il me parle bizarrement avec une voix de... Il me parle avec la voix d'Akira Mizubayashi, je connais.
Ah.
Or, Akira Mizubayashi a une magnifique voix de violoncelle. Et le grand étonnement de ce rêve, c'était pas que ce violon me parlât avec la voix d'Akira Mizubayashi.
C'était normal.
C'était Akira qui me parlait à travers le violon.
Mais
qu'un si petit violon me parle avec une voix de violoncelle, ça, c'était sidérant.
Les rêves de Daniel Pénac, il les partage avec nous sur Europe 1 jusqu'à 18h.
Europe 1.
L'innovation au service de notre protection, voilà le programme que nous réserve l'avenir d'après notre expert Anissé Mbida. Demain, les préservatifs se coloreront automatiquement pour nous prévenir en cas de MST. Votre télé baissera toute seule le volume sonore au moment de la pub et une application vous permettra de ne plus être démarché sur votre téléphone, que ce soit à des fins commerciales ou autres.
Allô, comment vous appelez-vous?
Je m'appelle Thérèse.
Je t'encule, Thérèse.
Oui, vivement le futur, vivement le futur qui arrive à grands pas.
16h, 18h sur Europe 1, l'équipe est sauvage.
Mathieu Noël.
Se coucher moins bête et surtout moins triste, le voilà l'objectif quotidien de l'équipe est sauvage. 2 heures lancées au grand galop sur l'étalon fougueux du savoir. On s'amuse à noter les meilleurs journalistes en compagnie d'un invité arbitre passionnant. Aujourd'hui, Daniel Pénac pour son dernier roman, La loi du rêveur chez Gallimard. Une ode au rêve qui nous incite à noter, à consigner ces fabuleux voyages nocturnes à la fantaisie sans bornes et qui peuvent nous conduire, comme Nicolas Carreau hier soir, à se retrouver sur la scène de l'Olympia déguisé en loutre à chanter
« Libéré, délivré !»
avec un micro en mousse. Tout est possible dans les rêves. C'est ça qui est merveilleux. Et dans le livre, on ne va pas vous dévoiler ce qu'il y a dans le livre. Il y a plusieurs rêves, un enchevêtrement de rêves, on peut le dire, scènes. Il y en a une qui est magnifique. Il y a une pièce de théâtre que Daniel Pénac imagine qui se passe en Italie et où les gens sortent dans la rue, il se passe plein de choses, c'est magnifique, c'est félinien. Et là, hors antenne, Daniel Pénac vient de nous dire que cette scène n'était plus un rêve.
Oui, parce que c'est le propre des rêves, c'est qu'on peut les réaliser. Et c'est ce que nous avons fait, ma troupe de théâtre et moi. Nous arrivons là du théâtre du Piccolo Théâtre Strehler de Milan, où nous avons joué devant le public, non pas la pièce telle qu'elle est exactement écrite dans le bouquin, mais la proposition de la pièce. On est allé jouer un petit spectacle devant eux, en leur annonçant qu'un jour, ils joueraient avec nous une pièce sur la résurrection de Fellini, Giulietta Masina et Nino Rota, le musicien, que pour jouer avec nous, il fallait qu'ils apportent tous leur téléphone portable allumé, ce qui est très rare au théâtre, et chacun un instrument de musique, n'importe lequel, même une casserole avec une cuillère de bois, et qu'à partir de ce moment-là, nous monterions notre spectacle ensemble. Il y avait 900 personnes, et tout était d'accord. Donc la prochaine fois...
Mais alors c'est quand la prochaine fois avec Eva? On veut venir avec une cuillère en bois.
On vous préviendra, ça sera peut-être dans un ou deux ans, mais en tout cas, c'est faisable.
On a hâte d'y être. C'est un rêve éveillé pour nous, les amis. Daniel Pénac est notre invité jusqu'à 18h.
Europe 1.
À suivre, mieux protéger grâce aux nouvelles technologies. Fini les pubs intrusives, les coups de fil intempestifs pour vous vendre des pompes à chaleur. Mieux encore, et ça, ça va changer la vie d'Eva, des préservatifs qui changent de couleur lorsqu'ils détectent une MST.
Oh oui, j'en ai rêvé.
Évidemment que vous en rêvez, Eva. Après, dans votre cas, vu vos fréquentations, il faut se préparer à en voir de toutes les couleurs.
C'est tout jaune et vert.
Oui, bah en même temps, hein, sur entrecoquins.com, faut pas s'étonner. Hein.
L'équipe est sauvage sur Europe 1.
16h, 18h.
Mathieu Noël.
À mi-chemin du divertissement et de l'info, d'une soirée Théma d'Arte et d'un épisode de Mask Singer, bienvenue dans l'équipé sauvage.
Oui,
oui, alors là, même avec n'importe quel masque, on le reconnaît, vous l'entendez venir. Anissa Mbida est notre deuxième journaliste en compétition aujourd'hui. Daniel Pénac l'observe avec, je le sens, admiration. Ça vaut mieux que Catherine Meurice qui, mercredi dernier, lorsqu'il est entré dans le studio, l'a regardé avec encore plus de gourmandise que d'admiration.
Non, alors non, moi j'écoute toujours, voilà, j'écoute toujours France Culture. Et non, on m'a dit que vous étiez un peu, voilà.
Bonjour.
Bonjour, pardon, je vous ai pas... j'attends de... Catherine.
Anissa Mbida.
C'est génial,
vous,
ce montage.
Vous avez vraiment des arguments incroyables.
C'est pas du tout un montage.
C'est l'effet que vous faites aux femmes. Anissa Mbida, aujourd'hui, vous nous offrez un voyage dans le futur. Un futur à la fois attrayant et aussi un peu effrayant.
Oui, la technologie, c'est formidable, sauf quand certains en abusent. Hein. Vous savez, aujourd'hui, quand on a un téléphone portable, tout le monde, on l'a toujours sur soi. Donc certains en profitent pour vous harcelé au téléphone. Il y a eu plusieurs associations de consommateurs la semaine dernière qui ont fait une pétition pour monter au créneau. Il va y avoir une loi qui va être votée cette semaine, enfin un projet de loi qui va être voté cette semaine pour régler ce problème. Et moi, j'ai quelques petites solutions technologiques pour éviter de se faire harceler au téléphone. Alors, sur le mobile, il existe sur certains appareils aujourd'hui une fonction qui automatiquement, quand le numéro de téléphone n'est pas dans votre carnet d'adresse, quand c'est un numéro qui est soit masqué, soit qui n'est pas dans votre carnet d'adresse, eh bien on peut demander de le basculer automatiquement sur la messagerie.
Ah, ça c'est vachement bien.
Ça c'est une fonction qui existe de plus en plus.
Et sur alors, les téléphones fixes, comment on trouve cette fonction?
Ah mais c'est dans les appels.
Ah, c'est dans
les paramètres du téléphone. C'est même pas une application que l'on peut télécharger. C'est sur tous les iPhones quand on met la dernière version et sur les téléphones Android. Sur les téléphones fixes, ça existe également, parce que vous savez qu'aujourd'hui, ce sont des robots qui nous appellent de façon automatique. Eh bien, il existe des téléphones fixes où on peut basculer sur une fonction filtre qui, dès que quelqu'un vous appelle, il va demander à la personne d'appuyer sur 1 pour parler à une personne. Pour
comme
parler
ça,
à quelqu'un.
Le robot ne peut pas
comme
appuyer
ça,
sur 1.
Le robot, il ne sait pas appuyer sur 1 et vous êtes complètement tranquille. Encore une fois, ça fonctionne que si le numéro qui est appelé n'appartient pas au canal d'adresse. Et la solution qu'on va avoir demain, qui va être encore plus perfectionnée, c'est un système où c'est l'assistant. Vous savez, on a tous des assistants sur nos téléphones portables. L'assistant va répondre automatiquement au téléphone. Voilà, il va répondre automatiquement au téléphone. Bonjour, vous voulez parler à Mathieu Noël? Pourquoi vous voulez parler à Mathieu Noël?
C'est bien ça.
Et en fait, la personne parle à
vous
l'assistant.
Vous êtes baroque? Non, il n'est pas disponible.
Non, mais ce qui est encore plus amusant, c'est qu'il va décrire, il va retranscrire tout ce qui est en train de se dire. La conversation qui est entre la personne qui vous appelle, le télémarketeur et l'assistant, et vous voyez tout s'afficher au fur et à mesure.
C'est encore plus flippant.
Non, parce que si jamais, finalement, c'est quelque chose d'intéressant, vous pouvez reprendre la conversation.
On reprend la main.
Et exactement comme les vieux répondeurs, vous savez, à l'époque, on avait le répondeur, et on filtrait avec son répondeur. Ouais, ouais. Et bien là, c'est l'assistant qui bavarde, qui fait la conversation.
Si c'est une pompe à chaleur, mais intéressante, voilà. Pour le coup, qui a une bonne promotion, hop, on décroche.
Donc, c'est des fonctions qui arrivent. Ça va arriver sur les téléphones Android dans quelques mois.
Mais on est d'accord, tout ce que vous venez de nous dire, c'est pour le télémarketing. C'est-à-dire, quand c'est des publicitaires qui nous appellent. Enfin,
ou même,
en l'occurrence
c'est toutes les personnes qui ne sont pas dans le carnet d'adresse,
d'accord,
sont filtrées automatiquement. Donc évidemment, il y a les télémarketeurs, mais ça peut être aussi quelqu'un à qui on n'a pas envie de parler.
Question d'Eva Rock de Paris. Comment se protéger des baratineurs sur Tinder?
alors ça, le cas typique, c'est la photo de profil. Vous savez, vous prenez un rendez-vous, vous pensez avoir un rendez-vous avec Brad Pitt ou avec Angelina Jolie, vous vous retrouvez avec Boudère.
Moi,
bien
je mettais la photo de Daniel Pénac, je cartonnais à chaque fois. Hein, je cartonnais. Après, j'étais un peu déçu.
Et bien aujourd'hui, il va y avoir un système pour valider la photo de de profil pour ne pas se retrouver avec une personne qui n'est pas seule. Et en fait, c'est un système où on va demander, Tinder va demander de vous prendre un selfie, c'est-à-dire qu'on va se prendre en photo avec
le système. Ah, c'est la reconnaissance faciale.
Il va faire de la reconnaissance faciale. Il va analyser votre visage, qu'il analyse en direct, avec la photo de profil, voir si c'est conforme. Et dans ces cas-là, il va valider, il dit le profil, la photo est validée. Comme ça, on n'aura pas de surprise quand on arrive.
Il faut donc être de face pour la photo de profil.
Bien joué.
Ouh, joli. Anissa Mbida.
Non, mais pour des raisons de sécurité, c'est quand même vachement bien parce que là, on plaisante avec Tinder, mais c'est vrai que c'est pas mal. Quand même.
Notamment que Tinder commence à rajouter une fonction panique. C'est-à-dire que quand on va à rendez-vous et qu'on n'est pas trop sûr de ce qui va se passer, eh bien, on donne l'heure du rendez-vous, le lieu du rendez-vous. Et quand on arrive au rendez-vous, s'il y a le moindre problème, on appuie sur. On secoue son téléphone et grosso modo, la police est prévenue automatiquement.
Mais c'est discret devant la personne.
Non, mais on peut le faire dans son sac, dans sa poche. D'accord. Je vous dis, on prend son téléphone et puis ça lance une alerte automatiquement.
On connaît ici les bloqueurs de pub sur Internet. Il existe un bloqueur de pub à la télé.
Oui, alors ça, c'est un petit boîtier magique, c'est tout simple. On le met derrière sa télé, face à sa télévision, et il va analyser l'écran. Et je ne sais pas si vous le savez, mais en fait, la pub, quand le logo disparaît, le logo de la chaîne disparaît, c'est qu'au moment de la pub.
Donc, lui, il voit le logo. Boîtier,
il surveille le logo, dès que le logo disparaît, pouf, il baisse le son automatiquement de votre télévision. Et ça permet, d'avoir un espèce de bloqueur de pub automatique sur sa télévision.
Et je vous laisse poser la dernière question, l'ultime innovation qui pourrait nous intéresser tous, évidemment, mais. Je vous laisse la parole un petit peu quand même.
C'est important de se protéger après son rendez-vous Tinder. Alors, il paraît qu'il y a des préservatifs qui vont changer de couleur. Voilà, qu'est-ce que c'est que cette histoire ?
Spécial quand même ça.
Alors, évidemment, c'est un préservatif qui protège des MST, comme tous les préservatifs, mais en plus qui est pédagogique. Ça veut dire qu'on va avoir. Le préservatif va passer au rouge quand c'est la syphilis, au vert quand c'est la chaude pisse, ou je ne sais quoi.
Qu'est-ce qu'on fait ? C'est trop tard.
C'est une idée qui vient d'étudiants. Ce sont des étudiants britanniques à qui on a demandé qu'est-ce qu'on pourrait imaginer pour pousser, favoriser le port du préservatif. Et eux ont trouvé cette idée-là parce qu'il y a deux utilisations qui peuvent en être faites. La première, c'est pour soi, c'est-à-dire qu'on peut utiliser le préservatif pour se tester soi-même si on a une MST ou pas.
Ah oui, d'accord, ça fonctionne.
Et on peut aussi le tester sur son partenaire pour lancer la discussion à l'après avec son partenaire. Tiens donc, les jaunes de préservatif, comment ça se fait ?
Petite discussion sympathique sur l'oreiller.
C'est un peu le problème et l'avantage de la technologie, c'est que ça règle des problèmes. Mais ça en crée d'autres qui vont créer des discussions et peut-être demain créer de nouvelles technologies qui vont régler ces problèmes-là. C'est un peu la course de l'innovation de la technologie.
D'habitude, je pose toujours la question aux journalistes. Est-ce que vous l'avez testé ? Là, je n'oserais pas. Merci Anissa Mbida pour votre chronique. Mérite-t-elle les 3 points ? Nous le saurons aux alentours de 18h.
Europe 1.
À suivre, il fallait renouveler le genre du quiz qui commençait à tourner en rond.
Pap, j'ai travaillé dans la même entreprise pendant 18 ans sans compter mes heures. J'ai emmené du travail pendant mes vacances. Et aujourd'hui, on me vire comme un malpropre avec en tout et pour tout 2 mois de salaire pour soi-disant me récompenser de mes bons et loyaux services. Je suis
un pauvre con.
Un pauvre con, exactement.
Le quiz arrive. Eva Rock contre Daniel Pénac aujourd'hui. Voilà un face-à-face qui promet, Eva.
Sur Europe 1, l'équipée sauvage.
Mathieu Noël.
Le poids de l'info, le choc du bon mot, vous écoutez l'équipée sauvage. 2 heures d'une compétition rieuse mais âprement disputée entre les meilleurs journalistes d'Europe 1 et en présence d'un invité d'honneur. Aujourd'hui, Daniel Pénac pour son dernier roman, La loi du rêveur, chez Gallimard. Alors dans ce roman, on l'a dit Daniel, il y a beaucoup de rêves, on passe d'un rêve à l'autre, on ne sait jamais ce qui est vrai, ce qui est faux. Vous parlez de vos parents dans ce livre, évidemment c'est le narrateur qui en parle. Vous dites « Mon père et Moon, ma mère étaient des parents si parfaits que je me demandais parfois si je ne les avais pas choisis moi-même avant ma naissance ». Là on est dans la pure fiction ou il y a une part de réalité là-dedans dans cette analyse ?
C'est une idée que les gosses chérissent.
Ouais.
Quand elle leur vient, ils se disent « Oh là là !» S'ils s'entendent avec leurs parents, ils se disent qu'ils sont géniaux parce qu'ils les ont choisis eux-mêmes. Et surtout, ça les travaille. Et à tel point que j'avais donné « Oui, oui, nous, quand on sera grand, les parents que nous serons nous-mêmes, etc. » Et à tel point qu'un jour, j'avais donné à mes élèves le sujet de rédac suivant « Vous vous réveillez un matin ?» et vous constatez que vous êtes transformé en adulte, complètement affolé, vous vous précipitez dans la chambre de vos parents, et vous constatez que dans la même nuit, ils ont été réduits à l'état d'enfant, c'est ça. Raconter la suite. Et je disais, et la suite, ce n'est pas un rêve. Ce n'est pas les Martiens, vous n'êtes pas sous comme des cochons. Non, non, c'est la réalité. Et alors, du coup, là, ça donnait des devoirs extrêmement intéressants parce qu'ils envisageaient leurs parents enfants. Et certains se faisaient des représentations tout à fait merveilleuses, d'autres réglaient des comptes en traitant leurs parents.
La fessée aux parents.
Et donc oui, ça, ça travaille les enfants, cette idée que du hasard de la procréation. Ils aimeraient y être pour quelque chose, quoi.
Eva, vous voulez dire ?
Combien vous avez d'enfants, Daniel Pénac ?
Alors, j'ai une fille.
Oui, et après ?
Et j'ai un certain nombre d'enfants adoptants, c'est-à-dire qui nous ont adoptés comme parents, ma femme et moi, depuis 35 ans. Alors là, il y en a un paquet, oui, il y en a beaucoup.
C'est hyper intéressant, ça ressemble à ce que vous disiez sur la famille qu'on choisit.
Oui, oui, c'est
vous une famille. Vous l'avez reproduite dans votre vie.
C'est une famille élective. Avec des liens entre les uns et les autres qui se sont tissés et qui finissent d'ailleurs par être des liens indépendamment de nous.
Ils peuvent se voir,
ils passent des vacances ensemble, ils bouffent ensemble sans nous, bien sûr.
Et ça forme une grande tribu.
Oui, oui, oui.
On parlait hors antenne, alors je ne sais pas si c'est Anissa Hemida qui vous cirait les pompes juste pour avoir les points, mais en tout cas, Anissa Hemida nous disait qu'il vous écoutait en livre audio, que votre voix le berçait en livre audio. Vous dites à Daniel Pénac que la lecture à voix haute est très importante, que l'oralité. Ça peut amener des jeunes à la lecture qui, sinon, n'y viendraient pas ?
Ben c'est comme ça que je l'ai pratiqué, moi, en classe. Quand vous êtes devant des gosses qui affirment ne pas aimer lire, si vous les croyez, ils sont foutus. Mais vous aussi, en tant que prof de lettres. Donc, pour les ramener à la lecture silencieuse et solitaire, j'ai volontairement transité par la lecture à voix haute.
Et ça a marché.
Oui, bien sûr, si vous lisez un texte absolument passionnant à voix haute. J'ai fait l'expérience avec Anissé quand il était mon élève. Je lisais Le Vicomte pourfendu, par exemple, de Calvino. Et à la fin de la nouvelle, j'ai fait semblant d'avoir une syncope. Du coup, il a fini lui-même la lecture tout seul dans son coin.
Ça marche bien, ça. Ça marche très bien. C'est mieux que le coup du rêve, ça.
C'est encore plus fort.
On est accroché. Cliffhanger, ils ont appelé ça les Américains, mais ça existait depuis longtemps.
Évidemment. Alors les amis, c'est l'heure du quiz. D'où cette petite musique. C'est un vrai faux très simple sur la famille. On connaît évidemment la famille Malocène qui a fait
qui nous a bercé notre enfance.
Vôtre aussi.
La vôtre et la vôtre, Mathieu, à quelques années.
Je pensais que c'était la mienne seulement, mais visiblement la vôtre aussi.
Bien sûr que non.
Voici un vrai faux sur la famille. Une bonne réponse, un point, c'est parti. Eva Rock, au début des années 1900, la famille Jacuzzi comprend 7 frères, tous spécialistes en hydraulique et dynamique des fluides. La troisième génération inventera 70 ans plus tard le célèbre système de bain à tourbillon. Vrai ou faux?
Seulement que ça soit vrai. Les jacuzzi. Les jacuzzi. C'était pas les japonais en fait. Je sais pas pourquoi.
C'est l'aïeul, Jacques.
Jacuzzi.
C'est aussi en réalité.
Je vais dire vrai.
Vous dites vrai. Oui, complètement au hasard. Mais comme quoi le hasard parfois peut être productif. Ouais. C'est vrai. 1956, invention par la famille Jacuzzi de la première pompe à hydrothérapie portable. 1969, Roy Jacuzzi. Ça c'est vraiment un nom incroyable. Intègre ce système à une baignoire. Les jacuzzi ont fait fortune aux États-Unis, mais viennent du nord de l'Italie. Daniel Pénac, il y a tellement de personnes portant le nom de Andersen en Norvège que le pays a eu 3 premiers ministres à la suite qui s'appelaient ainsi alors qu'ils n'étaient pas de la même famille. Vrai ou faux ?
Ça pourrait tout à fait être vrai. Enfin, oui, parce que, voyons, j'en ai connu 2, Jean-Paul Andersen. Il y avait Françoise Andersen et Lucille. Donc il y avait quand même un gars et deux filles. Non, c'est vrai.
C'est vrai. C'est faux. Mais c'est particulièrement vicieux. D'habitude, les questions vicieuses, c'est pour vous, Eva.
Oui.
C'est faux, par contre, c'est arrivé au Danemark, en fait. De 93 à 2001, il y a eu 3 premiers ministres appelés Rasmussen, alors qu'ils n'avaient aucun lien de parenté. C'est dégueulasse en régie, faire ça à Daniel Pénac. Ouais. Foutez de ma gueule. Daniel Pénac, Eva Rock, vous répondez en même temps. Les funérailles d'Elizabeth Taylor ont eu lieu en mars 2011. La famille a reçu une dernière volonté étonnante de la part de la défunte. Laquelle ? 1. Elle a demandé à ce qu'on joue Heal the World de Michael Jackson pendant la cérémonie. 2. Elle a demandé à ce qu'un caleçon de Richard Burton soit glissé dans le cercueil. Ou 3. Elle a demandé d'être en retard pour l'enterrement car elle était toujours en retard dans la vie.
C'est drôle.
3,
c'est
moi beau. Je dirais 3.
3 et vous, Eva ?
Moi, le caleçon de Richard Burton.
Évidemment. Évidemment, c'est la mauvaise réponse. La bonne est celle de Daniel. Elle est arrivée en retard de 15 minutes car c'était déjà le cas dans la vraie vie. Elle est enterrée.
C'est génial.
Elle est enterrée à Forest Lawn à Los Angeles dans le même cimetière que Michael Jackson, qui peut donc lui chanter Heal the World toutes les nuits. Daniel Pénac, le chameau est de la même famille que le dromadaire. Pour l'un comme pour l'autre, sa femelle, c'est la chamelle, et son petit, c'est le chamelon. Vrai ou faux ?
Le petit chamelon ? Ah, il me plairait assez, le petit chamelon. Ouais.
C'est vrai, c'est une bonne réponse. Le chamelon, c'est comme ça qu'on dit.
Pour les deux, pour le chamelon et pour le dromadaire. Ah ouais.
Et oui, même en science nat, on apprend des trucs. Eva Rock, attention, c'est la question qui va vous départager. Accrochez-vous, Eva.
Oui, je m'accroche.
La tomate fait partie de la même famille que la pomme de terre.
Oui.
Du... Ah non, bon. Ah non, on n'a rien entendu, on n'a pas entendu. Ah non. Info incroyable, la tomate fait partie de la même famille que la pomme de terre. Oh là, non, ça sent pas bon cette question. Du coup, il a été possible de faire un croisement. C'est ainsi qu'est née la pomate. Vrai ou faux, Eva?
Oh non, c'est faux, Eva.
Ça, c'est vrai. C'est la famille des solanacées, comme les aubergines, les piments, les poivrons. Grâce à un greffage, on a réussi à créer une plante sur laquelle on peut récupérer les tomates cerises et des pommes de terre dans les racines.
Je vais être totalement honnête, j'aurais dit faux de toute façon.
Fascinante nature.
Oui, fascinante nature.
Oui, j'aime bien quand je dis ça. C'est Daniel Pénac qui entend Louise. Étonnamment, Fellini connaissait-il la pommade? Certainement pas, sinon il en aurait fait un film. Un de ses plus grands fans, Daniel Pénac, nous accompagne jusqu'à 18h.
Europe 1.
À suivre, Eva, si je vous dis qu'en Espagne, la nouvelle tendance chez les jeunes, c'est les bonbons nounours à l'alcool, vous allez me dire...
Ah, c'est une bonne idée, ça.
Non, vous allez me dire, où va le monde? Et nous allons demander des comptes à notre correspondant à Barcelone, Henri de la Guérie.
L'équipe est sauvage sur Europe 1. 16h, 18h, Mathieu Noël.
Vous écoutez l'équipée sauvage, 2 heures pour rire, découvrir et aussi, Eva, humer l'air du temps. Plutôt aujourd'hui, aspirar l'air del tiempo. Parce que ça veut dire, mais j'ai tapé sur, vous savez, sur Reverso sur Internet. Enfin, c'est ce que ça m'a donné. Direction l'Espagne, et plus précisément Barcelone, ville de fête par excellence, où la nouvelle tendance est, je trouve assez choquante, Eva, les bonbons nounours à la vodka.
Putain, si je te dis ce que j'ai fait samedi soir.
Non, mais c'est pas une raison, c'est pas parce que vous faites des trucs encore pires qu'il faut pas s'inquiéter de ça. Bonjour Henri de la Guérie.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous.
Alors, mon cher Henri, pas de chichi entre nous et les auditeurs, on peut l'avouer, on a été jeunes ensemble, on a même fait des soirées ensemble. Le truc, c'est qu'à l'époque, nous n'avions pas de bonbons nounours à la vodka. Qu'est-ce que c'est que cette histoire, Henri? C'est génial!
Alors écoutez, ouais, c'est assez incroyable. C'est un combat, un conflit, un peu David contre Goliath. La petite entreprise basque Ocitos con alcool, soit, alors je ne sais pas si vous avez le traducteur, mais ça veut dire ourson, ourson avec alcool, d'un côté, contre le géant allemand Haribo de l'autre. Voilà l'histoire. Il y a tout juste un an, lors d'une soirée arrosée justement, mais à Bilbao cette fois-ci, pas à Paris, Mathieu, 3 amis décident de produire des oursons en gélatine imbibée d'alcool. Ils reçoivent même de l'argent en public pour l'aide à la création d'entreprise et ils se lancent sur le marché. Alors, leurs bonbons pour adultes se vendent sur Internet, dans les bars de nuit et les discothèques. La petite affaire fonctionne bien jusqu'au jour où ils reçoivent une mise en demeure des avocats d'Haribo qui leur reprochent d'avoir violé le droit de propriété. Les oursons alcoolisés ressemblent beaucoup trop aux célèbres bonbons allemands. Le cofondateur de cette PME basque, Julen Justa, interrogé par la Sexta TV, pourtant s'en défend.
La forme de nos oursons n'est pas la même. On travaille avec un fabricant qui a son propre moule. D'ailleurs, on a choisi un ourson, on aurait pu prendre n'importe quelle autre forme. On a choisi des oursons parce qu'on les trouvait sympas.
Alors attendez, mais concrètement, Haribo réclame quoi dans cette histoire, Henri?
C'est simple, hein. Ils proposent 2 choses. Soit les Basques arrêtent immédiatement la production de ces bonbons s'ils veulent éviter un procès, soit ils cèdent à Haribo la gestion et la propriété. Ocitos con alcool, voilà, ça ne rigole pas. Et nos 3 petits entrepreneurs se disent inquiets, mais ils ne s'arrêteront pas, d'autant qu'ils ne sont pas sur le même marché. C'est en tout cas ce qu'explique Tamar Guigolashvili.
Ça n'a absolument rien à voir. On s'adresse à des majeurs de 18 ans, pas à des enfants.
Mais dites-moi Henri, je vous connais, je connais votre goût pour l'investigation, déjà très jeune, vous l'aviez d'ailleurs ce goût de l'investigation. C'est bonbon, vous les avez goûtés j'imagine, vous êtes journaliste.
Non, je n'ai pas eu la chance encore de les goûter parce qu'on les trouve pas toujours forcément facilement. Je vous promets, je vous en ramène à Paris bientôt. Mais sachez qu'il y en a pour tous les goûts, allez passer la commande. On a rhum ananas, gin fraise, vodka orange, whisky cola ou tequila citron, voilà 6 choix. 15 bonbons en tout cas, c'est l'équivalent d'un verre de gin tonic. Sachez si vous les trouvez pas sur internet. C'est costaud. Vous pouvez aussi les faire chez vous parce que j'ai tapé sur YouTube. Il y a tout un tas de recettes. C'est assez extraordinaire. Vous mettez les bonbons dans un bol d'alcool. Vous mettez ça au frigo pendant 24 heures. Il faut remuer régulièrement pour que les bonbons ne collent pas entre eux. Et puis voilà, vous avez vos bonbons comme alcool.
Avec modération.
Mais vous m'enverrez quand même au moins 17 paquets de gin fraise pour Eva qui m'a fait un clin d'œil à ce moment-là. Merci beaucoup, Henri. Daniel Pénac est l'invité d'honneur de l'équipée sauvage, l'émission où les auteurs ont le temps de répondre et de développer leurs pensées, sauf bien sûr quand nos journalistes se perdent dans des questions à rallonge dont on ne voit pas le bout. Là, bien sûr, l'invité est prié de faire court, ce que Johan Spar avait admirablement fait face à Jean-Philippe Ballas.
À partir de quel moment vous avez senti que, on disait tout à l'heure, il va y avoir des piles de BD partout, ça fait partie maintenant des BD, on les prend sans même réfléchir, c'est le tome 9, on se pose pas la question. À quel moment vous avez senti que votre histoire très personnelle avait une résonance universelle et que Le Chat du Rabbin devenait un classique de la bande dessinée?
Quand on m'a dit que ça se vendait bien.
Aujourd'hui, on espère que Daniel Pénac aura l'opportunité de faire des réponses plus longues que les questions qui lui seront posées.
Europe 1, 16h-18h, L'Équipée Sauvage.
Mathieu Noël.
Vous êtes sur Europe 1, vous écoutez L'Équipée Sauvage, l'émission qui, par certains côtés, ressemble un peu à un film de Fellini. Des sujets poétiques, parfois lunaires, portés par des scientifiques eux-mêmes portés sur la boisson.
Si vous voulez bronzer à la pleine lune, il va falloir vous exposer 500 000 fois plus longtemps.
Des invités aussi fantasques que les journalistes.
J'ai très envie qu'on me parle de la lune.
Des personnages transgressifs.
C'est pas mal cuisiner nu. Hein.
Des femmes qui se baladent.
Soutien-gorge en l'air et poils sous les bras.
Et des hommes qui les dévorent.
Avec un regard bien libidineux.
C'est dans cette ambiance fellinienne que nous recevons un des plus grands fans français de Fellini, on peut le dire, dont le dernier roman est un hommage au plus célèbre réalisateur italien, Daniel Pénac. Dans La Loi du Rêveur, il y a cette définition de la vieillesse à travers ce dialogue qui m'a marqué. Lul, mon petit Lul, je te le dis, vieillir, c'est constater que plus personne ne connaît Federico Fellini. Et c'est ignorer le nom des jeunes réalisateurs d'aujourd'hui, rétorqua Lul avec un sens inné de la symétrie. J'aime bien cette réplique. Est-ce que ça vous ressemble? Est-ce que les réalisateurs d'aujourd'hui vous intéressent moins, par exemple, que les réalisateurs d'hier?
Oui, oui, je suis moins réactif. Mais Lul, justement, me met
le doigt dessus.
Le doigt dessus et il me montre des choses. Enfin, tous les gosses qui sont autour de nous nous montrent, évidemment. Mais et moi, je il n'y a pas très longtemps, je leur ai montré du Fellini.
Et ça leur a
adoré d'ailleurs. Ah oui, oui. J'avais montré à Marcord, ils étaient même tressiers. Hein.
Comment vous expliquez que les jeunes connaissent moins Fellini aujourd'hui? Enfin,
parce que le temps passe, les générations ne sont pas les mêmes. Et puis, alors en plus de ça, je crois que Fellini est très peu, passe très peu.
Passe très peu à la télévision.
Je ne sais pas ce qui s'est passé. Il doit y avoir une fois de plus des questions de droit, de je ne sais quoi. Les copies sont mauvaises, elles ne sont pas remasterisées. Il faut le prendre en main, ce petit.
Vous êtes là, vous pourriez le faire. On continue de parler justement de La Loi du Rêveur. Le temps de vous présenter nos deux ultimes prétendants à la couronne de chroniqueur du jour. À ma gauche, il est ce qu'on peut appeler, Daniel Pénac, un dommage collatéral de votre dernier roman. En effet, il a lu La Loi du Rêveur. Émerveillé par la beauté et la richesse des songes que vous y décrivez, il a décidé de se mettre lui aussi à consigner ses rêves. Le problème, c'est que tout le monde ne rêve pas aussi bien que vous, Daniel Pénac.
J'ai rêvé d'Anissa.
D'Anissa ou d'Anissé?
D'Anissé, pardon.
D'Anissé, Emilia. Et alors, c'était sympa?
J'étais chez lui.
Ah! Et vous chantiez ou pas?
Ouais, on faisait l'écho.
Super! Effectivement, ça, on n'a pas besoin de le noter. Bonjour Axel de Tarlet.
Bonjour Mathieu.
Comme l'extravagance de vos rêves l'indique, vous êtes notre expert économie. Et ce soir, vous nous parlez d'une filière en recul, celle du vin. Est-ce que vous êtes sûr? La dernière fois, vous avez dit que le cinéma était en recul. Notre expert cinéma est venu et monté au créneau pour vous désavouer à l'antenne.
Là, il n'y a pas d'expert vin.
Ah bah, il y a Olivier Pouls.
Nous sommes tous des experts du vin. Voilà. Donc, c'est un problème qui nous concerne tous, mais moins parce qu'on consomme de moins en moins.
Vous êtes sûr de ça?
Avec modération.
À ses côtés, Daniel Pénac, une journaliste qui, après des débuts difficiles dans notre championnat, a enfin ouvert son compteur le 16 décembre dernier. Victoire qu'Axel avait analysée ainsi.
C'est un coup de bol.
Bonjour Virginie Fulpin.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous.
Ce soir, on peut le dire, c'est votre fibre utopiste qui parle. Et si les clubs de foot se soucient un peu de leur bilan carbone?
Ils peuvent s'en soucier déjà, parce qu'il est absolument catastrophique. Hein. Et... enfin, ils commencent à se préoccuper un petit peu de l'environnement et les clubs de foot mettent en place des petites choses hein, pour l'instant, mais qui peuvent peut-être faire la différence.
Ils vont aller jouer chez les équipes adverses en train, par exemple, au lieu de prendre l'avion?
Ça arrive. C'est notamment arrivé avec l'Ajax Amsterdam qui est allé à Lille en Ligue des Champions.
Ah oui,
par
enfin,
le train. Non, mais oui.
Enfin, j'espère bien quand même. Ils y allaient en avion avant.
Mais oui, ils y allaient en avion, bien
enfin,
sûr.
Amsterdam-Lille, c'est vite
mais
fait.
Mais oui, mais des avions privés.
Voilà. Encore mieux. Le bilan carbone des footeux ou le déclin du pinard, quel sujet l'emportera? La réponse tombera juste avant 18h. En attendant, tournons-nous vers notre invité, qu'on ne présente plus puisque vous pouvez le faire vous-même, il est tellement connu. Mais qui est pour vous Daniel Pénac? On est allé vous poser la question. Voici non pas notre micro-trottoir, toujours monté pour flatter l'invité, voici notre micro-trottrash. C'est pareil, sauf qu'on n'a rien coupé.
Pénac.
Jean-Michel.
Hein? Non.
Daniel Pénac.
Voilà, oh là 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 là. Il parle bien, il est simple, il est souriant, voilà. Très sympathique.
C'est plutôt des good mood book. Good mood book, c'est de la bonne humeur, du positif, plein de belles choses, donc ça véhicule des bons messages.
C'est un mec sympathique, agréable et ses bouquins lui ressemblent.
Bah, Chagrin d'école, ouvrage magistral sur les enfants, ouvrage nécessaire pour les profs. fait carabine et tout ça, non, c'est lui. Hein. Oui, ben donc j'ai lu les tout premiers. Je trouve que ce sont des belles histoires et il les raconte très bien.
Un peu socialiste.
Daniel, on vous aime et continuez à écrire des bouquins comme tout ce que vous avez fait. Et le dernier me semble bien.
Non, mais je vais l'acheter.
On va l'acheter.
Moi, j'ai cru connaître Philippe Manœuvre dans ce micro-trottoir. Je ne sais pas s'il a été interviewé, mais visiblement, tout le monde vous aime. Est-ce que vous ressentez, Daniel Pennac, ce statut à part que vous avez, je trouve, dans la littérature française? C'est-à-dire qu'on peut aimer ou pas Beck BD, on peut aimer ou pas Amélie Nothomb, mais la question ne se pose pas sur Daniel Pennac. Enfin, moi, je n'ai jamais rencontré quelqu'un qui n'aime pas Daniel Pennac.
Parce que ça a bercé notre enfance aussi. Mais
il doit y avoir un autre secret à cette unanimité.
Oui, et il y a des effets pervers quelquefois.
Qui sont ?
Il n'y a pas très longtemps, un journaliste qui me dit « Mais vous n'en avez pas marre d'être toujours le gentil de référence ?» Parce qu'on est quand même dans un pays où la gentillesse est vaguement synonyme de connerie. Ouais. Il y a ça aussi. Alors ça m'amuse, cet aspect-là. M'amuse, ça crée un peu d'agressivité de temps en temps. Mais autrement, bon, non, c'est vrai que je ne mords pas, a priori, je sais faire, mais j'ai décidé, pour tout vous dire, j'étais pensionnaire toute mon enfance, et quand on est pensionnaire, il faut défendre son territoire, et quand on défend son territoire, on est contraint immédiatement à le défendre physiquement. Alors j'ai beaucoup cogné, beaucoup bagarré, et à 19 ans, j'ai décidé, mais de propos délibérés, quand on arrête de fumer, de ne plus jamais cogner sur personne. Et figurez-vous que je m'y suis tenu. Ça a vachement compliqué ma vie, hein, parce que c'était très simple quand même, régler ces problèmes d'un coup de boule. C'était vite fait, bien fait. Et depuis mes 19 ans, il a fallu que je me retienne très souvent.
C'est vrai ?
Oui. Et je n'ai plus, et c'est vrai que je n'ai plus jamais levé la main sur qui que ce soit. Alors que je réglais mes problèmes physiquement dans les territoires clos de la pension.
Vous avez déjà recroisé la route de quelqu'un d'un camarade avec qui vous aviez eu Maya Party ou pas, beaucoup plus tard quand vous êtes devenu l'écrivain.
Ah, 19 ans, ça commence à faire très loin, mais oui, bon, certainement.
Il n'y a pas quelqu'un de séance de dédicace un jour qui vous a dit « Tu te souviens pas, tu m'as mis ton poing dans la gueule hein. » Mais le livre est très bon.
Ça n'est jamais arrivé, mais ça pourrait. Hein, ça pourrait.
La loi du rêveur, c'est le titre de son dernier roman. Daniel Pennac passe l'après-midi sur Europe 1.
Europe 1.
À suivre, calendrier surchargé, déplacement en avion à gogo, le bilan carbone des clubs de foot professionnels est désastreux. Et s'ils commençaient à s'en soucier ? Et si les grands clubs de foot prenaient un virage vert ? Comme Franck Ribéry, on ne peut que croiser les doigts et espérer.
Mais j'espère que la retourne va retourner pour lui.
Et voilà !
La retourne va-t-elle retourner ? Virginie Fulpin s'est penchée sur la question, elle est formelle, c'est pas demain la veille.
16h, 18h sur Europe 1, l'équipe est sauvage.
Mathieu Noël.
Mandat, les cultures G, rire et coup de boule, vous écoutez l'équipe est sauvage. 2 heures d'un impitoyable pugilat qui n'est pas sans rappeler le film Fight Club.
Quand un type venait au Fight Club pour la première fois, il était mou comme de la mie de pain. Au bout de quelques semaines, il était comme sculpté dans du bois brut.
Et oui, désormais, grâce à cette compétition revigorante, les journalistes d'Europe 1 sont comme sculptés dans du bois brut. Il n'y a qu'à toucher les abdos d'Axel. Oui, encore quelques semaines peut-être. En attendant, la compétition continue sous l'œil de notre invité Daniel Pennac. Voici notre troisième concurrente du jour. Virginie Fulpin, vous vous penchez aujourd'hui sur le bilan carbone du foot et c'est pas joli joli.
Et si le foot devenait écolo ? On sait jamais. Les clubs n'ont plus vraiment le choix de toute façon. En tout cas, en vitrine, ils doivent montrer qu'ils s'intéressent à l'environnement puisque sinon le public ne les suivrait plus trop. Le bilan carbone, donc on en parlait, c'est une catastrophe. Pourquoi ? Parce que le nombre de matchs se multiplie, donc les déplacements qui vont avec, forcément. On organise une Coupe du Monde au Qatar à grand renfort de climatisation. Et puis la Ligue 1, par exemple, a déplacé son dernier trophée des champions en Chine pour attirer le public asiatique. Mais forcément, tout ça, ça compte dans le bilan carbone et ça doit être compensé par quelques efforts. Alors les clubs ont commencé à les faire, ces efforts, sous l'impulsion de la Ligue de foot professionnelle qui leur demande une démarche environnementale. Et puis le ministère aussi qui a passé un accord avec l'association WWF pour... et ils ont signé ensemble une charte d'engagement éco-responsable pour les clubs. Alors je vous le dis tout de suite, hein, c'est pas du tout la révolution. Mais ce sont des petits gestes, on ne sait jamais, ça peut compter. Alors, quels sont ces petits gestes ? La gestion des déchets d'abord. Ah, dans les stades, on utilise maintenant des gobelets réutilisables, on collecte les bouchons en plastique. Et pour les surplus de nourriture, en fait, les clubs ont souvent des partenariats avec des associations qui redistribuent les invendus. On privilégie le local aussi, avec le PSG qui a sorti son fameux jus de poire bio, des poires qui viennent. Oui, ça vient du centre d'entraînement du PSG, ces poiriers. Et donc, c'est désormais servi aux clients dans les loges du Parc des Princes. On surveille plus sérieusement la consommation d'eau aussi. Là, par exemple, c'est à Lyon. Il y a un système pour récupérer les eaux de pluie.
Ah,
et c'est ça.
J'ai cru que les footballeurs ne pouvaient plus trop boire. Ils avaient une bouteille par match, pas plus. Et on leur disait non, stop, maintenant, même en aucune prolongation.
Non, mais en fait, les eaux de pluie sont récupérées. C'est ça qui sert à arroser la pelouse, parce que c'est aussi très consommateur d'eau, oui, évidemment. Simple, un ouais. terrain de foot, oui, mais il fallait quand même y penser. Puis ce qui pollue le plus, en fait, c'est le déplacement des supporters. Et là, l'OM, par exemple, vient de passer un accord avec une application de covoiturage. C'est-à-dire que pour les supporters, ça devient beaucoup plus facile de trouver des gens avec qui se déplacer. Et ça peut aussi faire une petite différence. Je ne dis pas que c'est la révolution, comme je l'ai dit, mais c'est voilà, des petites choses qui peuvent changer pour les clubs de foot et pour les gens qui suivent le foot.
Et les joueurs, ils doivent avoir un rôle dans cette affaire-là aussi. Alors, qu'est-ce qu'ils peuvent faire?
Pour l'instant, c'est timide. Hein. On en parlait tout à l'heure du déplacement de l'Ajax Amsterdam à Lille. Ils ont pris le train et en fait, ce qui était assez drôle, c'est qu'ils ont tous fait des selfies. Parce que, non, mais en gros, c'était un peu « Waouh, on est en train de faire un truc super bien, là, il faut bien qu'on le montre à tout le monde ». Mais c'est vrai qu'en fait, le train, par exemple, pour faire Paris-Lyon, c'est plus pratique aussi que l'avion. Mais pour l'instant, ça ne se passe pas. Et le PSG, par exemple, a déjà répondu que bon...
PSG, ils prennent l'avion pour aller à Lyon.
Mais bien sûr, parce
qu'en fait... Il faut 2 heures pour aller en train.
Oui, mais
il faut
en
plus
fait,
de temps quand vous allez prendre l'avion, parce que c'est en avion
imaginez,
privé.
Imaginez, vous avez Neymar dans un train, dans un wagon, et tout le monde qui se bouscule, c'est compliqué. Donc il faut qu'ils mettent ça en place petit à petit. Ils commencent à y réfléchir. Et d'ailleurs, maintenant, les joueurs devraient plus s'impliquer, parce que Cristiano Ronaldo, notamment, sur Instagram, il a 200 millions de personnes qui le suivent. Et donc, en fait, il y a des associations qui commencent à prendre contact, notamment avec lui, pour qu'il ait des petits gestes pour l'environnement. Parce que si ça touche 200 millions de personnes, ça peut faire la vraie différence au bout. Plus que les clubs, finalement.
Il ne faut pas désespérer des footballeurs.
Non.
Vous êtes d'accord avec
ça? Dis, c'est des politiques de petits pas. Hein.
D'autant plus que les joueurs compensent largement la taxe carbone.
En quoi?
En crachant partout. Pour faire pousser les pâquerettes. Ils font pousser les pâquerettes. Vous n'avez pas remarqué que quand ils quittent le terrain, il y a des pâquerettes partout.
Là, c'est la reforestation.
C'est tous les jours le printemps avec les footballeurs. On remercie Virginie. Votre chronique mérite-t-elle les 3 points? Axel, votre sentiment?
Moi, je ne voterais pas pour toi si j'étais moi.
Merci.
Europe 1.
À suivre, notre séquence télé. Eva vous dira quoi regarder ce soir sur les écrans. Mais aujourd'hui, avec Daniel Pénac, un seul conseil compte. Ne jamais monter sur une chaise pour essayer de réparer à la va-vite l'ampoule d'un vidéoprojecteur. Daniel l'a fait. Et les plombs ont sauté, Daniel avec, et la pendule de l'entrée s'est arrêtée sur midi, une clo-clo, comme on dit dans le petit milieu de l'électricité.
L'équipe est sauvage sur Europe 1, 16h-18h, Mathieu Noël.
Rire et laisser mourir aurait pu être le titre de cette émission. Chaque après-midi, les journalistes d'Europe 1 s'affrontent au service de votre bonne humeur et de votre savoir. Un seul sera élu chroniqueur du jour, et une chose est sûre, ça ne sera pas Eva Rock. Non qu'elle ne le mérite pas, mais voilà, ma fidèle complice en charge de la rubrique Conseil Télé est hors compétition, même si parfois devant la qualité et surtout la beauté syntaxique de certaines de ses interviews, on aimerait qu'elle le soit.
Vous êtes le premier humoriste à avoir créé une plateforme. Ça aussi, c'était un projet qui vous est né comment, en fait?
Ce projet m'est né subrepticement.
Il y avait deux questions en une.
Une question à poser à Daniel Pénac, peut-être
de... Non, je me retiens.
Des éditions Gallimard, face à vous. Daniel Pénac est notre invité. Daniel Pénac, on en parlait hors antenne avec Eva Rock. On vous a déjà proposé d'adapter vos romans, notamment la série des Malocènes, en série. Vous n'étiez pas chaud.
J'ai pas été, ça a été fait, La Fée Carabine est passée une fois, là, avec d'ailleurs Fabrice Lucchini qui jouait le rôle de l'inspecteur Pastor. Et je ne suis jamais tout à fait satisfait, je me demande pourquoi. Et c'est ma fille qui m'a donné la réponse. Elle m'a dit, mais c'est parce qu'on essaie d'adapter un ton, ton ton à toi. Bon, alors qu'il faut adapter le roman, les romans noirs, les Malocènes, j'attends une adaptation qui en fasse une... Si ça existe. Et puis il faut que ce soit un cinglé aussi qui s'empare de ça. Un cinglé qui fasse absolument ce qu'il veut, mais en respectant le fait que ce sont des romans noirs. avant d'être des romans un peu amusants. C'est surtout des romans noirs avec des histoires terribles. Bonheur des ogres, c'est quoi? C'est une histoire d'anthropophage qui bouffe des gosses. Ouais. La fée carabine, sont des vieux qu'on martyrise et qu'on zigouille pour leur piquer leurs appartements. La petite marche, enfin, etc. Ce sont des histoires avec un substrat très noir et souvent d'ailleurs réel. Au Bonheur des Ogres, c'était né du fait qu'en 14, il y avait un nombre incroyable de sectes, de gens totalement déglingués par cette guerre mondiale, qui s'autorisaient n'importe quoi. Et en particulier cette secte dont je décris les agissements effroyables dans Au Bonheur des Ogres. Bon, sur l'immobilier, les démonstrations ne sont plus à faire. Et ce qui serait bien, c'est qu'un réalisateur s'empare vraiment du sujet.
Oui, mais moi, je vois une solution, c'est que vous réalisiez vous-même.
Non, moi, vous me mettez flanqué derrière une caméra, je ne vois rien.
Ce n'est pas vous, c'est le chef-op qui est derrière la caméra. Vous lui dites ce que vous voulez.
C'est un métier, c'est un art.
Vous avez trop de respect pour l'art cinématographique.
Non, mais c'est un art. Je ne suis pas peintre, je ne suis pas compositeur, je ne suis pas réalisateur. Non.
Alors, le saviez-vous, mon cher Daniel Pénac, les gens aiment les séries. Ils en bouffent tellement qu'ils perdent désormais en moyenne 17 minutes chaque soir devant l'écran d'accueil de Netflix à se disputer avec leur conjoint pour savoir quoi regarder. Heureusement, Dieu Tout-Puissant a créé... Je déteste quand j'invoque Dieu. Il a créé Eva Rock et sa chronique 17 minutes de gagner.
Alors écoutez, en 2017, on est sur les marches du Capitole à Washington. On est quelques jours après l'investiture de Trump. Et il y a des femmes qui scandent un prénom. Écoutez. Gloria, 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 Gloria. Gloria, il s'agit de Gloria Allred. Elle est présente ce jour-là d'ailleurs pour défendre les droits des femmes. C'est son cheval de bataille depuis près de 40 ans. Netflix consacre un documentaire à cette avocate star. Et si je vous en parle, c'est parce qu'elle a 78 ans, elle est toujours en activité et elle plaide cette semaine auprès des victimes d'Harvey Weinstein au tribunal de Manhattan. Donc vous allez beaucoup, beaucoup la voir. C'est un sacré bout de femme. Elle est née dans une famille très modeste de Philadelphie. Elle se destine à devenir professeure. Et puis à 25 ans, elle est victime d'un viol. Elle tombe enceinte. Elle décide de se faire avorter, mais à l'époque, l'avortement est interdit. Elle subit donc une opération clandestine et elle frôle la mort. Et elle décide à partir de ce moment-là de devenir avocate et de se spécialiser. Alors d'abord dans la défense des droits civiques et ensuite, évidemment, des droits des femmes. Elle n'a peur de rien, surtout pas d'affronter ses détracteurs sur les plateaux de télévision. Elle s'est d'ailleurs toujours servie des médias. Elle loue ce qu'on appelle le tribunal de l'opinion publique. Alors on en pense ce qu'on veut, mais elle s'est toujours réfugiée derrière ça. Elle s'est attaquée à Donald Trump, au chanteur R. Kelly ou encore à Bill Cosby. C'est elle qui a monté le dossier contre l'humoriste. C'est une icône du mouvement féministe. Elle a également permis de faire avancer le droit. On lui doit en partie la légalisation du mariage homosexuel. Et elle s'attaque depuis des années au fameux délai de prescription. Elle voudrait qu'il soit beaucoup plus étendu dans le temps. Elle est très critiquée. Elle est parodiée évidemment dans tous les late shows, mais aussi dans les dessins animés comme South Park ou les Simpsons. La critique la laisse de marbre. À savoir toutefois que le documentaire de Netflix en question, il s'est terminé avant la publication d'une grande enquête qui a été diffusée dans le New York Times, qui met en cause à la fois la fille de Gloria Allred qui s'appelle Lisa Bloom et qui a défendu pendant un certain temps Harvey Weinstein. Ah. L'enquête du New York Times mettait aussi en cause Gloria Allred qui aurait accepté une transaction financière entre le producteur et une de ses clientes, mais qui est une chose habituelle aux États-Unis dans le système judiciaire. Donc voilà, elle a pu répliquer. En tout cas, aujourd'hui, elle est au tribunal de Manhattan, elle est auprès des victimes d'Harvey Weinstein et son portrait est à découvrir sur Netflix. C'est un sacré personnage.
L'histoire est passionnante, mais le documentaire lui-même est bien fait.
Il est très très bien réalisé. Parce qu'on voit aussi le côté négatif de cette femme.
C'est
quand
pas
même.
Géographique. Quoi,
voilà, c'est pas du tout géographique. Voilà, ça se termine un peu avant cette enquête, mais c'est vraiment formidable.
Vraiment formidable, c'est vous qui êtes vraiment formidable, Eva. 17 minutes de gagner.
Europe 1.
À suivre, décidément, Dan Nature ne nous a pas tous dotés d'une imagination aussi féconde. D'un côté, il y a des êtres qui, à l'instar de Daniel Pénac, peuvent rêver qu'ils plongent dans des cités englouties où l'électricité est liquide. De l'autre, il y a notre expert éco, Axel de Tarlé. Qu'est-ce que vous voyez dans votre rêve le plus fou, Axel ?
Le MEDEF et la CGT, main dans la main.
Ah ouais, c'est super !
h 18h sur Europe 1, l'équipe est sauvage.
Mathieu Noël.
Quatre journalistes, une seule couronne, c'est l'équation impossible qui fait tout le sel de l'équipe est sauvage. Le grand tournoi des journalistes d'Europe 1 qui se tire la bourre sous l'œil d'un invité d'honneur aujourd'hui, Daniel Pénac, dont le dernier roman, La loi du rêveur, est un double hommage à la puissance des rêves et à Fellini, ce qui finalement revient à peu près au même. On continue d'en parler, mais l'heure est venue, mon cher Daniel, d'écouter notre dernier concurrent du jour. Un concurrent qui joue gros après la bérésina journalistique qu'il a vécue vendredi face à la pourtant conciliante Isabelle Carré, dont la politesse n'a pas suffi à masquer la déception après la chronique d'Axel sur les cantines Sodexo. Autant vous dire qu'au moment du vote final, vers 18h, l'affaire a été vite pliée, même si avec sa gentillesse légendaire, Isabelle a tenté de voir le bon côté des choses.
Le succès, c'est d'aller d'échec en échec sans jamais perdre son enthousiasme.
Axel, c'était pour vous ?
Un petit peu, je dois dire.
Allez Axel, c'est une nouvelle semaine qui démarre. Vous avez opté pour un sujet bien racoleur, le pinard. On vous écoute.
Le pinard qu'on boit de moins en moins.
Oui, parce qu'il serait visiblement pas fou.
Bah écoutez, je veux voir pourquoi on en boit moins. Non, les chiffres sont tombés pour le Bordeaux. C'est moins 12% pour les ventes. Et alors surtout, c'est une catastrophe.
Axel, où ? On en boit moins où ? En France ?
Dans le monde, le Bordeaux se vend 12% de moins. Mais vous avez raison, la moitié du Bordeaux est exportée. Et alors, c'est une catastrophe en ce moment aux États-Unis. Vous savez que depuis la mi-octobre, Donald Trump a imposé une taxe de 25% sur les vins en provenance de France. Le Bordeaux aux États-Unis a fait moins 46%.
Bah, logiquement, oui.
Logiquement. Mais il y a un malaise plus profond, et c'est ça le sel de cette chronique, c'est que le vin français a de moins en moins la cote, y compris en France. Alors, vous savez que ça, c'est une bonne chose. Nous avons divisé par deux notre consommation d'alcool au cours de ces 50 dernières
oui,
années.
Ça dépend si on l'a remplacé par du vin italien, par exemple.
On consomme de moins en moins de vin en général, parce qu'en fait, le vin, et dans le monde entier, c'était vrai, a longtemps été porté par une espèce de mystification. Vous savez, le vin, c'est bon pour le cœur. Et donc, on a beaucoup dit ça. Il y a eu des études qui l'ont affirmé. Donc, ça a été l'un des vecteurs pour promouvoir les ventes aux États-Unis, arrêter de boire de la bière. Bon, ce discours, maintenant, est totalement passé de mode. On dit que le vin, vous savez, pour les femmes enceintes, on prône l'abstinence. Nous sommes au mois de janvier, maintenant c'est la mode du dry January. Et alors il y a un autre problème pour le vin rouge, pour le Bordeaux qui est très fort en rouge, c'est que du coup on ne boit plus de vin à midi. Or le rouge se boit beaucoup à table, alors que le blanc se boit plus à l'apéro. L'apéro est encore un moment où on boit de l'alcool, mais à table, dans les restaurants, ben, les restaurateurs vous disent qu'ils vendent de moins en moins de bouteilles de vin rouge. Donc c'est un problème. Et j'en arrive au deuxième point, qui est un problème marketing du vin. Alors il y a une étude qui vient d'être publiée sur le vin français, son image. Il a toujours une excellente image, le vin français. Le meilleur vin au monde, si on veut se faire plaisir, si un chinois marie, milliardaire chinois marie sa fille.
Mais c'est un vin de grande occasion.
Et voilà. C'est un vin de grandes occasions et c'est un vin un peu vieillot. C'est un vin pour les parents. Ce n'est pas du tout quelque chose de jeune, si vous voulez. Et vous avez ça, c'est très vrai pour le champagne. Les jeunes, et le champagne est totalement bousculé, ses ventes baissent également dans le monde entier par le Prosecco. Les jeunes, ils boivent plus. Ah oui. Le Prosecco est bien plus à la mode et bien plus pétillant que le champagne, qui est un peu quelque chose de statutaire.
Je vous confirme que je suis vieux. Hein.
Quand on marie ses enfants, voilà, on va faire, ou à Noël, on va faire péter la bouteille. Ou pour les 50 ans d'anniversaire de mariage avec madame, on fait péter la bouteille de champagne. Mais quand on est jeune entre potes, eh ben, je peux vous dire, on ne boit pas de champagne. D'où d'ailleurs, je ne sais pas si vous l'avez vu, cette campagne de publicité des vignerons champenois qui essayent de désacraliser, vous ne les avez pas vus, ces pubs, ils essayent de désacraliser, de banaliser la consommation de champagne. Alors c'est un peu ridicule, on voit dans la cuisine le type avec sa bouteille de champagne, puis à côté il y a un œuf dur, ou bien il est en train de manger une sardine.
J'ai pas vu ça, c'est placardé sur...
Oui, dans les magazines on en voit. Et alors autre chose qu'ils essayent, ça c'est un peu limite, ils disent, mais parce que le problème du champagne c'est qu'on le boit à deux, on le partage. Non, n'ayez pas peur de le boire tout seul. Donc on montre...
N'ayez pas peur, ayez confiance.
Non. Pour encourager la consommation solitaire.
Mais que dit la loi 20 tout ça. Un goût.
Voilà. Ah bah ça, on a le droit, écoutez, de promouvoir. En tous les cas, non, mais cette histoire de... C'est un vrai souci pour la filière viticole française. Et pour... Alors là, je suis plus sérieux, je vais terminer par une touche un peu plus sérieuse pour nos exportations. Vous savez que la France a deux grands soldes positifs en exportation. Ce sont les ventes d'avions, ça cartonne, et les ventes de vin. 10 milliards d'excédent commercial. Donc il y a un peu péril dans la demeure, voilà, pour nos vins rouges et nos champagnes.
Il y a les missiles aussi. Voilà, on devrait leur envoyer du champagne à la place des missiles.
Alors, tiens, remettez-vous au champagne et buvez le seul, voilà. Sinon c'est le missile.
On les bombarde avec du champagne.
Daniel Pénac, est-ce que vous soutenez les ventes de vin rouge, ou est-ce que vous faites
partie
de ces gens?
Je viens de faire ma proposition que vous ne semblez pas prendre très au sérieux.
Non, c'est vrai que là j'ai du mal à
remplacer les missiles par des bouteilles de champagne.
C'est vrai que
et
ça
puis à chaque
beau.
Fois qu'on me parle de vin, ça, je me rappelle, vous connaissez plus, vous autres, Michel Simon qui chantait le pinard,
bien sûr.
C'est de la vinasse, ça fait du bien, par où ce que ça passe. Il faut remettre cette chanson.
Mais vous ne croyez pas si bien dire. C'est une des chansons qu'on a déjà utilisées émission. Évidemment, Michel Simon, nous ne l'avons pas oublié. Merci beaucoup, Axel de Tarlet.
Europe 1.
À suivre, vous vous l'étiez répété comme un mantra parmi vos bonnes résolutions. Ne plus décongeler du Picard. Ne plus décongeler du Picard. Et grâce à Délices in Extremis, vous allez vous y tenir. Chaque jour, vers 6h moins le quart, une recette délicieuse et surtout inratable pour bluffer vos proches. Et ce soir, Eva, nous ne vendrons pas la mèche, c'est une surprise. Qu'est-ce qu'on peut dire tout au plus ?
J'espère que vous aimez les moules !
A tout de suite !
L'équipée sauvage sur Europe 1.
16h-18h,
Mathieu Noël.
L'équipée sauvage entre dans sa dernière ligne droite, les amis. À ce stade, Daniel Pénac, notre invité, est certainement, comme tous nos invités, subjugué par ma prestation. C'est normal. Et encore, Daniel, on est lundi. Je démarre doucement. Moi, je suis un type qui monte en puissance tout au long de la semaine pour finir le vendredi en apothéose. Isabelle Carré vous le dira. Vendredi, elle a été épatée. Chaque soir dans Délices in Extremis, vous sauvez notre parler. Vous sauvez.
Ça arrive au meilleur.
Ouais, mais au plus nul aussi. Connais-toi toi-même, disait Socrate. Comme je me connais plutôt bien, je passe la parole à Eva Rock. Parce que sur Europe 1, on vous invite au prochain concert d'Angèle, c'est ça, Eva ?
Est-ce que vous rêvez de l'avoir en concert, Angèle ?
J'en rêve et surtout mon fils en rêve.
Et
si bah
écoutez, il y a Nantes et à Caen, ça sera les 6 et 7 février prochains. On vous invite avec la personne de votre choix. Alors pour ça, vous tentez votre chance en envoyant Nantes ou Caen, hein, selon la ville où vous voulez aller, par SMS au 739 21. C'est 75 centimes plus le coût du SMS. Deux SMS pour jouer. Vous vous inscrivez. Le tirage au sort s'arrête jeudi soir. Donc dépêchez-vous. C'est le 739 21 code Nantes ou le 739 21 code Caen. Bonne chance.
Mais moi, comme je présente l'émission, je peux pas avoir déjà des places ?
Je vais voir ce que je peux faire.
Vous renseignez.
Mais vous pourriez quand même vous acheter une place. Hein.
C'est vrai, je vais m'acheter une place.
Avec tous les millions que vous gagnez.
Vous avez raison. Les millions, dizaines de millions même.
Ouais, allez.
Daniel Pénac, on parle de ce livre, ce dernier roman, La loi du rêveur. Quels sont les héros de roman qui vous ont accompagné pendant votre enfance ? J'imagine qu'il y en a beaucoup. Est-ce qu'il y en a, il y a une figure particulièrement qui vous a...
C'est les Trois Mousquetaires. Ah. C'est Dumas, bien sûr. Parce que je les lisais en cachette.
Pourquoi en cachette ?
Ben parce que dans les pensions où j'étais, on n'avait pas le droit de lire pendant l'étude. Et ça, c'est les gosses aujourd'hui qui disent c'est pas vrai, c'était génial, on n'avait pas le droit de lire. Les pions nous piquaient nos bouquins et ne nous les rendaient pas. Alors on les lisait en cachette. Avec la lampe poche au lit. Donc je voyais D'Artagnan, Athos, Porthos, Aramis donner rendez-vous au mousquetaire du cardinal pour aller se friter dans une auberge à une lieue de là. Et puis je m'endormais. C'était la nuit avec l'Inde. Et le lendemain à l'étude, comme j'avais envie de lire, je ne pouvais pas lire mon épique et mon bouquin. Donc j'écrivais la suite de Dumas. Le rendez-vous entre les mousquetaires du roi et ceux du cardinal. Et le soir suivant, je retournais au pieu, je rouvrais le bouquin et je comparais.
Oh.
C'était un peu mieux Dumas.
Nous sommes avec Daniel Pénac qui nous présente son livre « La loi du rêveur », un livre dans lequel il est beaucoup question de Federico Fellini. Il y a une anecdote sur Fellini que vous racontez dans le livre, sur sa manière de diriger les acteurs, parfois pas professionnels. Il recrutait plein de gens comme ça qui n'étaient pas forcément des comédiens professionnels. Et parfois, quand il ne savait pas trop s'exprimer à l'écran, il leur demandait de dire des chiffres, de compter en fait à voix haute. Et ensuite, en post-production, comme on dit, il mettait les bonnes... Enfin, il y avait des acteurs qui donnaient le dialogue. C'est vrai,
oui,
ça ?
Oui, bien sûr. Quand... les acteurs oubliaient leur texte ou avaient même une voix qui ne lui plaisait pas. Ils disaient mais ça n'importe pas. Ma tout compte, tout compte. Mais je compte quoi? Mais nous, mais tu comptes des bah si, mais amorosamente. Alors fille se mettait à compter sur le ton séducteur, etc. Et c'était des comédiens, très souvent d'ailleurs, c'était des images de ses rêves. C'est ça qui est surtout très original. Il rêvait. Et dans ses rêves, il y avait des figures qui apparaissaient. Ensuite, il n'avait de cesse que de les retrouver dans la réalité.
Il passait une annonce ?
Et alors, il passait une annonce dans le journal avant de tourner. Et cette annonce disait « Federico Fellini est prêt à recevoir tous ceux qui veulent le voir ». Et se précipiter au studio 5 de Cinecittà, tous les Romains et les Romaines qui, de leur côté, voulaient devenir une image fellinienne. Alors, ils débarquaient. Alors, c'était les grosses dames plantureuses, les ecclésiastiques ralentis, les ados insupportables.
Ça faisait faire du monde.
Ça faisait un monde fou. Et
il leur faisait passer des petits tests comme ça. Et en effet, il les faisait compter. Et d'ailleurs, si vous regardez attentivement les films de Fellini, particulièrement, par exemple, j'ai revu Rome avant-hier, Roma, vous vous apercevez que le mouvement des bouches n'a rigoureusement rien à voir avec ce qui se prononce. Il ne s'emmerdait, mais pas du tout avec la poste, mais pas du tout. C'en est même une marque du film. Il y a quelqu'un qui parle ailleurs, dans un studio, qui n'est pas le comédien en question, qui est quelqu'un d'autre, et qui dit ce que Fellini a mûrement réfléchi de lui faire dire entre le moment où il a tourné le film et le moment de l'enregistrement. Et ça se voit.
C'est un livre qui est merveilleux, un très beau roman, et en plus qui vous donne, envie de revoir tous les Fellini, ou de les voir tout simplement, dans mon cas, beaucoup que je n'ai pas vu, notamment Amarcord, que je n'ai pas vu et que je vais voir parce que vous en parlez beaucoup dans le livre.
Ça, vous avez du bonheur devant vous.
Et bien, c'est ce que je me suis dit. Alors, Daniel Pennac, vous l'avez compris, L'Équipée Sauvage, c'est une certaine forme de légèreté, mais c'est aussi des valeurs, au premier rang desquelles le respect du monde animal. Or, parmi les grands défenseurs de la cause animale, il y a certes Aymeric Caron, mais il y a surtout Olivier Pouls, un épicurien qui a pour les bêtes une tendresse infinie, surtout si ces bêtes sont elles-mêmes tendres. Écoutez sa réaction lorsque vendredi j'essayais de le sensibiliser au destin tragique d'un petit veau.
Ben, moi je vous fais de l'autre choix de veau. Je trouve que c'est une viande qui se prête particulièrement bien.
Vous avez déjà vu un veau?
Oui, ouais, ben, oui, j'en ai
ça
déjà
vous attendrait pas.
Bah, ma foi, quand il est découpé en petits morceaux.
Oui, bon, d'accord, enchaînons. Bonjour Olivier Pouls.
Bonjour Mathieu, bonjour tout le monde. Bonjour Daniel Pennac, dans mes bras mon ami, parce que cette ode au vin que vous venez de chanter, c'est un peu la mienne. Hein. Le pinard, c'est de la vinasse, ça fait du bien, par où que ça passe, j'aurais pas dit mieux.
Bah, la prochaine fois, vous me le chanterez, Olivier, hein, parce qu'il ne faut pas juste les paroles. Alors Olivier, qu'est-ce qu'on fait ce soir? Je crois, j'étais en Belgique ce week-end, pour tout dire à nos auditeurs, je vous ai envoyé une photo de moule, et vous m'avez répondu... Ça tombe bien.
Eh bien oui, ça tombe bien parce que vous m'avez donné l'idée de ma chronique finalement. C'était toujours ça de prix et de gagner.
Ah,
et je me suis dit, bon sang, mais que fait-il chez moi? Et en plus, il est en train de manger des moules frites, le saligo. Donc ça m'a donné furieusement envie d'en faire, d'en manger et de vous donner la recette de la traditionnelle moule frite à la belge. Vous savez, ce plat iconique.
Et c'est facile à faire ça, Olivier?
Évidemment, c'est les moules, c'est très facile à faire. Vous allez même, mon cher Mathieu, pouvoir les faire vous-même chez vous. Et une fois encore, c'est pratiquement inratable. Alors il faut savoir que le concept d'associer la moule et la frite, c'est bel et bien un concept belge. Ça remonterait à 1875 à Liège, où une famille allemande, là pour le coup d'origine, la famille Fritz, avait ouvert une cabane à frites, une des premières cabanes à frites de Belgique, et ils ont eu l'idée d'y associer les moules. Alors les moules, évidemment, ça c'est un produit qui se mange depuis la nuit des temps, mais l'association des deux viendrait donc bel et bien de la Belgique. Alors après, c'est aussi devenu le symbole, évidemment, de la ville de Lille, avec la fameuse braderie au cours de laquelle se vendent plus de 500 tonnes de moules frites.
Alors Alain Decaux, merci. Maintenant, j'aimerais entendre Maïté, c'est-à-dire la recette.
Alors Maïté, elle va vous dire qu'il va falloir prendre des moules. Il va falloir prendre environ un litre de moules.
Et là, vous avez déjà bu la bière qui va avec les moules, j'ai l'impression.
Non, pas encore, mais ça ne saurait tarder. Mais moi, les moules, je les prépare au vin blanc. Alors, je les accompagne de bière, effectivement, à table, mais je les prépare au vin blanc. Donc, on va dire un litre de moules par personne. Alors, les ingrédients qu'il vous faut ensuite, c'est très, très simple. Il vous faut un oignon, du céleri. C'est très important, la branche de céleri. Du persil plat, un peu de beurre et un peu de vin blanc.
Ensuite,
c'est aussi simple que ça, vous prenez une belle casserole dont vous détenez le couvercle, parce qu'il va falloir la couvrir, donc c'est très important. Vous allez faire revenir tous vos légumes, mais très rapidement avec le beurre. Vous mouillez avec le vin blanc. Dès qu'il y a une ébullition et que le vin blanc commence à évaporer un tout petit peu l'alcool, vous mettez les moules à l'intérieur, vous couvrez et puis vous laissez cuire une petite dizaine de minutes, en fait, pour savoir si le plat est prêt.
Vite.
Ah bah oui, pour savoir si le plat est prêt, vous regardez et vous voyez que toutes les moules se sont comme par magie ouvertes.
Ah. Les moules non ouvertes ne doivent pas être mangées.
Alors,
Non,
mais on peut les manger, mais là, pour le coup, c'est très difficile d'ouvrir la coquille. Mais si vous avez bien cuit, on va dire que 95% de vos moules se sont ouvertes. Il ne faut surtout pas, après, laisser cuire trop longtemps, parce que ce qui est bon dans la moule, c'est qu'elle doit rester, évidemment, moelleuse, un peu juteuse. Et donc, il ne faut pas la cuire trop longtemps. Et puis surtout, très important, c'est que vous devez garder ce jus, ce délicieux jus de moule. Alors soit vous pouvez le boire comme ça à la fin du repas, mais vous pouvez aussi le garder pour faire d'autres préparations. Par exemple, un petit risotto avec ce jus de moule, ça va être absolument délicieux.
Ça, c'est pas bête du tout, Olivier Pouls. Comme quoi, vous êtes vraiment belge.
Ben oui, exactement.
Vous ne m'avez pas menti.
Et votre séjour en Belgique, sinon, c'était sympa?
Eh bien, à part que vous n'étiez pas là pour me guider, c'était un excellent séjour. Nous avons vu des très belles choses et nous avons été accueillis très chaleureusement par les Bruxellois.
Eh bien, vive le roi, vive la Belgique.
Merci Olivier Pouls, qu'on retrouve tous les samedis dans la table des bons vivants de Laurent Mariotte à 11h sur Europe 1.
Europe 1.
Nous y sommes presque. Qui sera élu chroniqueur du jour? Qui, dans quelques instants, connaîtra l'ivresse de la victoire et rentrera chez lui, porté en triomphe par ses collègues? Qui, au contraire, s'écriera et pleurera?
Ne partez pas sans moi.
A tout de suite pour la grande finale.
L'équipe est sauvage sur Europe 1.
16h-18h,
Mathieu Noël.
Dans son dernier livre, La loi du rêveur, notre invité Daniel Pénac pose une question. Sait-on vraiment quand commence un rêve? Question que s'est également posée la femme d'Axel de Tarlé lorsque la nuit dernière, il s'est réveillé en sursaut en s'exclamant:
c'est ma fiancée, Sandrine Bonner.
Sandrine Bonner dans les bras d'Axel de Tarlé, une vision félinienne ou simplement flippante, je ne sais pas. Mais les amis, il est temps de se réveiller car vous le savez, c'est un froid pragmatisme qui m'anime. Mon but est de savoir qui parmi vous est le meilleur. Qui sera élu chroniqueur du jour? Vous avez chacun 10 secondes pour nous convaincre. Anissé Mbida, pourquoi voter pour vous?
Parce que j'espère avoir été un bon élève de Daniel Pénac. Et je pense que je l'ai intéressé avec cette idée de faire l'amour pour dépister des maladies.
Eh oui, bien sûr.
Conjugué, c'est utile tentant. Aux désagréables. Nicolas Caron, pourquoi voter pour vous? Et le coup du rêve, alors qu'il
parce
le connaît.
Parce que j'ai essayé de vous faire rêver quand même. Voilà.
Oui, c'est mignon. Tout. C'est tout. Axel de Tarlé.
Daniel Pénac, depuis le début de l'émission, on ne cesse de dire que vous êtes l'écrivain de l'empathie, de la bienveillance, de la gentillesse, même si ça vous agace un peu. Eh bien, moi, je vais la solliciter, cette bienveillance, et vous demander de voter pour moi, qui ne gagne jamais à ce jeu. Contrairement, et là, je vais balancer des noms, à Nicolas Caro et Anissa Mbida, qui gagnent tout le temps.
Le message est passé. Virginie Fulpin, bah, pourquoi faudrait-il voter pour
vous? Je crois qu'Axel vient de plaider ma cause aussi. Hein, donc, finalement, je l'espère, c'est un peu qu'on en fait ça.
C'est vrai, c'est vrai. Vous êtes dans le même bateau. Eh bien, dévoilons d'abord le choix de nos auditeurs.
Alors, large majorité, mais vraiment une très majorité, oui. Très grande victoire de Anissa Mbida.
Anissa Mbida, oui, mais, oui. Mais ça, mais tout de suite. Dès qu'on parle préservatif et nouvelles technologies, c'est tout de suite le vote du public. Anissa Mbida, 2 points.
Prévention des maladies, c'est pas
pareil. Pour ma part, je donne mes points aujourd'hui.
Votre point.
Mon point, c'est vrai que je n'ai qu'un seul petit point. Également Anissa Mbida.
Ah!
Et oui, j'ai pas pu m'en empêcher.
Oui,
je vote souvent
vu.
Pour lui.
Ouais.
Mais vous
je,
savez,
je lui ai envoyé une boîte, c'est pour ça.
C'est pas moi qui décide, ni même en vrai nos auditeurs, mais notre invité d'honneur, Daniel Pénac, aujourd'hui. C'est vous n'aimez pas trancher, vous n'aimez pas le principe de compétition, et je peux vous comprendre. Mais chez nous, c'est pour rire. Il faut trancher. Qui, selon vous, mérite d'être élu chroniqueur du jour?
Ce qui ne m'empêche pas de vous haïr. Parce que moi qui n'ai jamais été d'aucun jury, jamais dans ma vie, par principe, j'ai toujours refusé d'être dans un jury littéraire ou quelque jury que ce soit cinématographique. Aujourd'hui, vous m'avez coincé. Une fois que j'étais là, je ne savais rien. On m'a dit, il va falloir que vous votiez. J'ai dit non, j'ai pris 2 claques. Il faut que je vote. Eh bien, je vais voter pour quelqu'un, celui d'entre vous, qui m'a annoncé une excellente nouvelle personnelle. Quelqu'un m'a annoncé que dorénavant, au lieu de passer mes scanners habituels, mes IRM familiales, mes radios de tout genre, je pourrais faire l'amour avec un préservatif.
Oh. Et avoir les mêmes résultats.
Et le préservatif me donnera les mêmes résultats. Vous comprendrez bien que toute subjectivité mise à part, Dieu sait si j'adore Nicolas, si je vénère Axel, si je Virginie, etc. Je vous adore tous, en dépit du fait que je vous hais. Eh bien, c'est Anissé qui remporte la couronne.
Et alors, c'est historique, puisque c'est la première fois de l'histoire de cette émission que nous avons un grand chelem.
Bravo.
Grand chelem d'Anissé Mbida, qu'on peut applaudir. Pierre. C'était la 102e Pierre. Journée de l'équipe et sauvage. On remercie chaudement notre invité Daniel Pénac, merci. Dont le dernier roman, La loi du rêveur, est disponible chez Gallimard. Vous allez adorer ce livre et en plus vous aurez envie de redécouvrir Federico Fellini derrière, ce qui sera toujours...
Et tous les ouvrages de Daniel Pénac.
Et évidemment tous les autres aussi. Merci également à mes équipiers du jour, Eva Roque, Virginie Fulpin, Anissa Mbida, Nicolas Caro, Axel de Tarlé et l'ami des bêtes, Olivier Pouls. Ne l'oublions pas, l'équipe est sauvage revient demain 16h, tout de suite, restez sur Europe 1. Écoutez Le Monde changer avec Nathalie Lévy pour votre grand journal du soir. Bonsoir Nathalie.
Mathieu. Bonsoir Mathieu et bonsoir à tous. On est ensemble évidemment et avec plaisir ce retour. Votre équipe est sauvage qu'on écoute attentivement. Et on vous retrouve d'ailleurs demain dès 16h. Vous recevrez Samuel Le Bihan. À demain Mathieu.
Europe 1, 18h-20h.
Votre grand journal du soir.
Nathalie Lévy.